Merci Junior. Merci au Seigneur de nous avoir conduits jusqu'ici. Bonjour à chacun parmi vous. Nous voulons prier. Dieu notre Père, nous voulons être à ton écoute ce matin. Dispose nos cœurs et que notre écoute soit attentive parce que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle est donnée. Qu'elle agisse dans le sens de nous changer et de nous donner à te voir tel que tu es, le Dieu Saint, et à nous conformer à ton enseignement, à tes commandements. En Jésus. Amen. Alors, mardi dernier, j'allais à mon travail, tôt le matin, comme d'habitude, et j'écoutais la radio. Il était question du procès de la mégastar du football, Diego Maradona, qui est décédé en 2000. Et le journaliste expliquait comment est-ce qu'il a vécu ces derniers jours et où est-ce qu'il se trouvait. Et à la conclusion de son papier, il disait qu'il y avait de la négligence manifeste et peut-être même une volonté d'attenter à la vie de cet homme. Et après présentation de ce qu'il avait fait comme investigation, il a promené son micro. Il a fait un micro-trottoir. Et nous avons entendu, puisque j'étais avec mon fils Kevin, nous avons entendu un monsieur dire toute sa colère devant autant de laxisme. Et il disait ceci: je suis prêt à donner la vie de toute ma famille, je donnerai ma vie pour que Diego reste en vie. Et à ces propos, Kevin a réagi en disant: je ne comprends pas une telle idolâtrie. Beaucoup sont prêts à donner leur vie par admiration, par dévotion. Dans le même temps, ils refusent de donner leur vie à Christ pour leur propre intérêt. C'est l'absurdité de l'idolâtrie. Deux observations. Notre culture occidentale est remplie d'idoles. Deuxième observation, l'idolâtrie est inévitable. Tout au long de la prédication, nous aurons l'occasion, l'opportunité de comprendre pourquoi. Nous parlons de l'idolâtrie ce matin, et cela, c'est dans 1 Corinthiens au chapitre 10, et le titre du message est « L'idolâtrie tue, seul le Seigneur peut nous en délivrer ». Nous lisons, si vous voulez bien, en 1 Corinthiens 10, les versets 1 à 13. Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous, ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu, puisqu'ils sont morts dans le désert. Or, ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme eux en ont eu. Ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit, « Le peuple s'assit pour manger et pour boire ». Puis ils se levèrent pour s'amuser. Ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte que 23 000 sont tombés en un seul jour. Ne provoquons pas Christ comme certains d'entre eux l'ont fait, si bien qu'ils sont morts victimes des serpents. Ne murmurez pas comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts sous les coups du destructeur. Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple et ils ont été décrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ainsi donc, que celui qui croit être debout fasse attention de ne pas tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. L'apôtre Paul relate ces faits. Il relate ce que l'Éternel a réalisé pour son peuple, ce peuple qu'il a aimé. Et lorsqu'il parle de cela, vous avez compris qu'il fait référence à ce qui s'est passé au moment de quitter l'Égypte et dans le désert. Nous sommes au cœur de l'Exode. Paul commence par établir un lien filial entre les anciens esclaves et les Corinthiens auxquels il s'adresse. Il dit « nos ancêtres ». Qu'est-ce que les Corinthiens avaient à voir avec les Israélites ? Très peu de choses. Peut-être qu'il y avait quelques Israélites de la diaspora qui étaient à Corinthe, mais en majorité, les Corinthiens étaient des païens. Et donc, sur le plan biologique, aucune relation, mais une relation certaine sur le plan de la foi. Il nous est dit qu'Abraham est le père de la foi, le père de tous ceux qui croient. Et dans cette première partie, l'apôtre Paul souligne quatre faits essentiels dans ce parcours. Premièrement, le Seigneur accomplit le miracle de faire passer son peuple à travers la mer. C'est une délivrance extraordinaire. Face à la mer et dans le dos, les soldats de Pharaon. Le peuple n'a aucune issue. L'Éternel intervient. Il les libère de la peur et de l'angoisse, de la terreur qui les tenaille. Deuxième point, le peuple s'identifie à Moïse. La nuée ici est le signe patent de la présence de l'Éternel. L'Éternel est en communion avec son peuple et il lui permet de passer à pied sec à travers la mer. Certains commentateurs associent la mer au fait que Dieu établit une séparation nette entre son peuple et l'oppresseur, une sorte de protection définitive. Les Égyptiens ne pourront plus faire cette traversée, les Égyptiens ne pourront plus mettre la main sur le peuple de Dieu. Troisième point, Dieu nourrit son peuple. Paul nous rappelle la manne que reçoit le peuple en plein désert et il la qualifie de spirituelle. Et croyez-moi, la manne était bien matérielle. Les Israélites allaient la ramasser pour la manger. Mais Paul y voit déjà un symbole. Il y voit déjà une préfiguration de ce qui vient. Et l'on peut dire que la manne était spirituelle, rien que par son origine. Elle vient de Dieu directement, ce Dieu qui est esprit et qui donne à manger à son peuple. Quatrièmement, le peuple a pu étancher sa soif. Et nous sommes en Exode 17. Le Seigneur ordonne à Moïse de frapper le rocher d'Horeb, duquel sortira de l'eau pour éteindre la soif des Israélites. Et Paul parle à nouveau d'une boisson spirituelle. Et cette fois-ci, il parle de Christ, le rocher, ce rocher duquel sort cette eau qui étanche notre soif du Seigneur. En résumé, l'Éternel met à part son peuple, un peuple hétéroclite, un peuple composé d'Israélites, mais aussi de gens de toutes sortes. Il se constitue un peuple auquel il manifeste sa grâce. Et sur la base de ces quatre faits, nous sommes obligés de reconnaître que oui, c'est l'Éternel qui agit. Ce n'est pas Moïse, c'est Dieu lui-même qui dirige et qui instruit. Le Seigneur veut rendre la liberté à son peuple, mais il nourrit aussi un objectif par rapport à l'Égypte. L'objectif de l'Éternel, c'est de se faire connaître des hommes, de tous les hommes. En Exode 14, verset 18, il déclare « Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand le Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. » Celui qui connaît la vérité est appelé à la saisir. Si les Égyptiens savent ou découvrent que Dieu est le seul Éternel en qui nous devons croire, c'est l'occasion de se détourner alors des faux dieux auxquels ils mettaient leur confiance. Après tout ce que l'Éternel a accompli, alors on s'attendrait à ce que ce peuple soit comme un seul homme derrière Moïse, qu'il obéisse au Seigneur pour tant de privilèges, pour cet amour qui se donne, qui donne. Le Seigneur a donné à tous. Et pourtant, verset 5, l'apôtre Paul nous dit que la plupart d'entre les Israélites n'ont pas été approuvés par Dieu, puisqu'ils sont morts dans le désert. Et lorsque l'on retourne dans l'Exode, on constate qu'au départ, dans ce peuple, on compte 600 000 fantassins. Et en terre promise, il y en a deux qui arrivent, Caleb et Josué, qui rentre en terre promise. Quelle catastrophe! Le Seigneur les a libérés physiquement, le Seigneur les a libérés matériellement, mais le cœur des Israélites est resté en Égypte. C'est pour cela qu'à la moindre contrariété, ils contestent. Ils contestent Moïse et ils évoquent la bonne nourriture en Égypte. Ils méprisent le pays que leur promet le Seigneur. Ils ne portent pas leur regard sur ce qu'accomplit l'Éternel pour leur bien. Ils se placent en ceux qui savent ce qui leur convient à eux. Et c'est cela qu'ils veulent retrouver. Timothy Keller, qui est un écrivain chrétien, décrit l'idolâtrie comme suit. Tout ce qui est plus important, je cite, « Tout ce qui est plus important que Dieu dans votre vie, c'est tout ce qui captive votre cœur et votre imagination et tout ce qui remplace les biens que Dieu seul peut donner. » Et nous touchons ainsi du doigt la réalité des Israélites. Tout ce que Dieu leur a donné n'était pas à la hauteur de ce qu'ils avaient connu en Égypte. Leur cœur n'était pas touché. Et je pense que nous ressemblons beaucoup aux Israélites. Je disais tout à l'heure que notre société occidentale est profondément idolâtre. Elle rejette l'Éternel et à la place, elle s'est fabriquée de nouveaux dieux. La famille, les enfants, la carrière professionnelle, la réputation, le compte bancaire, l'adulation des autres, les compétences, l'approbation des pairs, la beauté, l'intelligence, les idéaux de société, le succès même dans le ministère, etc., etc. Vous pouvez en citer autant que vous voulez. Ces choses ont pris la place de Dieu. La vie n'a plus de sens si l'on ne peut pas réaliser ces choses. Si l'on n'a pas l'approbation de nos amis, on se sent dévalorisé. On cherche ces choses-là de toutes nos forces. La motivation d'agir n'est commandée que par cela. Dans son livre « Les idoles du cœur », Timothy Keller, une fois de plus, racontait l'histoire d'une dame qui était avec ce désir profond d'avoir un enfant ou des enfants. Cela a mis du temps et Dieu lui a fait grâce, elle a eu des enfants. Elle a pu en avoir deux. Et elle avait ce désir obsessionnel de leur offrir une vie parfaite. Elle a développé un esprit de contrôle qui a fini par rendre la famille malheureuse. L'aîné des enfants s'est retrouvé en échec scolaire et le cadet était rempli de colère. Ce désir si fort de donner l'idéal aux enfants, réaliser ses rêves de maman, est devenu un cauchemar. Parce que l'on cherche ce qui nous fait plaisir. Parce que l'on se tourne vers ma personne, ce que je ressens, ce que je désire. Le Seigneur n'est pas contre le fait d'aimer nos enfants et toutes les autres choses que j'ai citées tout à l'heure. Mais cela devient un problème lorsque nous finissons par aimer ces choses ou ces personnes plus que Dieu. Abraham et Sarah ont souhaité avoir un enfant. Et quand il arrive, les parents, dans leur âge avancé, pourraient se dire, voilà, la boucle est bouclée. Nous n'avons plus qu'à attendre la fin de notre vie. Notre descendance est assurée. L'avenir est garanti. Est-ce que c'est cela qui s'est passé ? En Genèse 22, verset 2, l'Éternel s'adresse à Abraham et lui dit « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-lui un holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Dieu désire ce que nous avons de plus cher. Abraham se savait dépendant de Dieu. Il obéit non par désespoir, il a pleine confiance. Et ce qui est extraordinaire quand on lit ce récit, c'est que quand Abraham demande aux serviteurs d'attendre, il leur dit « Nous reviendrons vers vous ». Et pourtant, il sait ce que Dieu lui a demandé. Dieu lui dit d'aller sacrifier Isaac. Mais dans sa foi, dans le fait qu'il connaisse Dieu, il sait que c'est un Dieu de grâce et de bonté. Dieu trouvera une issue à cela. Et il va confiant. C'est le Seigneur qui donne. C'est vers lui que devraient être tournées toutes nos aspirations. La question pour nous est, est-ce que nous donnons au Seigneur ce qui nous est cher? Dans le second volet de cet extrait de texte, versets 6 à 10, l'apôtre Paul décrit les attitudes, l'attitude des Israélites. Au verset 7, il est question du veau d'or et des orgies qui suivent la fabrication de cette idole. Moïse est convoqué devant l'Éternel pour aller recevoir les tables de la loi. Pendant ce temps, le peuple s'est fabriqué un autre Dieu et qu'il adore. Au verset 8, nous retournons en Nombre 25. Les Israélites se livrent à la débauche avec les femmes moabites. Ils adorent le dieu Baal Péor. Et le texte révèle qu'il y a eu 24 000 Israélites qui ont perdu la vie au jour de la colère de l'Éternel. Le verset 9 nous renvoie toujours en Nombre les contestations du peuple. Pour des questions alimentaires, ces contestations vont leur valoir la venue des serpents. Les Israélites seront mordus en grand nombre par les serpents au point d'implorer Moïse pour qu'il prie l'Éternel afin que l'Éternel intervienne. Et sur ordre de l'Éternel, Moïse va fabriquer un serpent de bronze pour que Israël soit sauvé. Au verset 10, Paul rappelle l'attitude de Corée, Dathan et Abiram. Écoutez en quels termes il s'adresse à Moïse. Nous sommes en Nombre, chapitre 16, verset 3, ils disent « Et voilà, en voilà assez. En effet, tous les membres de l'assemblée sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel ? Corée, Abiram et Dathan estiment avoir les mêmes droits que Moïse et Aaron. Pourquoi seraient-ils seuls à se tenir devant l'Éternel? Eux aussi, ils ont le droit. Ils veulent remplir la fonction de prêtre. Pourtant, Dieu les a choisis pour servir dans le tabernacle. Mais cela ne suffit pas. Ils veulent être dans la présence de l'Éternel. Et cette prétention sera réprimée durement par le Seigneur. La terre s'ouvre et les engloutit, ainsi que ceux qui leur sont favorables. Corée, Abiram et Dathan descendent vivant dans le séjour des morts. Et ces épisodes mettent en lumière les réponses opposées d'Israël à la bonté de l'Éternel. Je nous ai fait un tableau pour que nous puissions peut-être avoir une vue globale de ce qui se passe. Quand l'Éternel agit d'une certaine façon, les hommes réagissent d'une façon complètement opposée. L'Éternel délivre son peuple en le faisant passer par la mer. Les Israélites construisent un veau d'or qu'ils vont adorer. Le peuple est identifié à Moïse dans la communion à travers la nuée. Les Israélites vont établir des relations iniques avec les filles de Moab. L'Éternel nourrit son peuple par la manne. Les Israélites critiquent et contestent, estiment que c'est sans valeur ce que l'Éternel leur donne. L'Éternel donne à boire à son peuple pour étancher sa soif. Nous voyons une soif de pouvoir exprimée par Corée, Dathan et Abiram. Ils veulent le pouvoir. Nous aussi, nous avons droit à ceci, à cela. Quatre actions de l'Éternel pour le bien de son peuple, quatre réponses piteuses de ce peuple à la bonté et à l'amour de Dieu. Et ce que nous pouvons déjà tirer comme premier enseignement, c'est que toute idolâtrie finit par la mort, à moins d'une intervention de la grâce de Dieu. Ce qui est difficile à entendre et à lire, c'est que tout ceci se passe au sein du peuple de Dieu. Il n'est pas question des peuples païens, il est question du peuple de Dieu. Ce peuple a vu le Seigneur en action. Il connaît ses réalisations. Pourtant, il est incapable de répondre de manière appropriée à l'Éternel. Lorsque vous raconterez ou lorsque vous racontez ces récits à vos enfants ou vos petits-enfants, ne vous contentez pas de la dimension historique. Ils nous concernent. Ils nous instruisent, dit l'apôtre Paul. Premier enseignement, l'orgueil spirituel n'a pas de place dans la vie de celui qui croit en Christ. Dimanche dernier, Timothée Libreck nous a démontré que la connaissance ne suffit pas. Il y en a parfois qui deviennent orgueilleux parce qu'ils ont la connaissance livresque. Israël pouvait être orgueilleux parce que ils ont vu Dieu agir, ils ont vécu ce que Dieu a fait. Leurs yeux ont vu l'Éternel agir. Ils connaissaient ces choses. Mais cela n'a pas suffi, parce que ce qu'il faut pour nous, c'est expérimenter l'Éternel. Lors de mon dernier séjour à Vaux-sur-Seine, j'ai appris d'une camarade que l'église était fermée, leur église était fermée. J'ai voulu en savoir pourquoi, elle m'a fait savoir que le pasteur est tombé dans la séduction sexuelle. Un pasteur connu, reconnu, un pasteur talentueux. Et cette nouvelle implantation d'église était un phare dans le milieu parisien chrétien. Malgré ses connaissances, malgré son talent d'orateur, toute une église a fermé. Alors j'ai posé la question à cette sœur, « Et tu vas où maintenant ?» Elle m'a dit, « Je ne vais plus à l'église. Je reste chez moi. » Et beaucoup d'autres se sont retrouvés dans cette situation. Deuxième enseignement, les tentations font partie de la vie du croyant et elles seront toujours présentes. Mais comme avec Israël, dans toutes ces péripéties dont nous avons parlé, Dieu est fidèle, il agit et tout est sous contrôle. Une façon de nous dire de ne pas paniquer quand le tentateur vient avec ses friandises. En 2 Pierre, chapitre 2, verset 9, nous pouvons lire « Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux. » C'est par votre foi, à travers votre foi, que l'Éternel agira puissamment dans votre vie. Troisième enseignement, Dieu prépare le moyen d'en sortir et surtout le moyen de supporter la tentation. Et Paul s'adresse à des personnes qui vivent, nous avons dit depuis que nous étudions cette lettre, que Corinthe était un lieu d'idolâtrie profonde. Et le risque est grand de se retrouver à nouveau dans l'idolâtrie. Et Paul encourage les Corinthiens à tenir bon, parce que seul le Seigneur saura les délivrer de cette idolâtrie. Et cela peut être le cas pour nous dans nos familles. Parfois, on est seul à croire, à connaître le Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a de la moquerie. Ah, tu vas encore à ton église ce dimanche? Et quand vous rentrez, ben, qu'est-ce qu'on a dit alors? Allez, on raconte. On se moque. On se fout de votre tête. Et la tentation est forte de dire, je suis seul dans un environnement si hostile. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, ça vaut le coup. Et cela m'a fait aussi penser à une expérience que j'ai connue. J'étais encore étudiant et j'habitais un studio pas loin d'ici. Et j'avais un voisin. Ce voisin, je le voyais rarement quand il était sobre. Et c'était très calme. Nous étions dans un couloir à deux, chacun de son côté. Et quand il avait bu, il allait dans le couloir et il vomissait tout ce qu'il trouvait de négatif chez moi. Et c'était terrible. Et il criait, c'était une situation vraiment inconfortable. Et quand il avait fini, il rentrait chez lui. Il avait dessoulé, et puis quelques jours plus tard, il venait frapper à ma porte. Il avait dans ses mains un plat de couscous avec des ingrédients, et il demandait à rentrer pour manger avec moi. Et je lui ouvrais la porte. Et on n'a jamais parlé de ce qui avait été dit, mais on mangeait ensemble et on passait un temps agréable jusqu'au prochain épisode. Et ce que j'ai constaté, c'est que le Seigneur m'a donné la capacité à supporter cela. Parce que, au fond, ce que j'avais réalisé, c'est que c'était un homme livré à lui-même, perdu, malheureux dans sa situation. Donc le Seigneur est là et il veille. Mais nous pouvons aussi penser à des situations plus graves. Les chrétiens persécutés, beaucoup tiennent ferme dans un environnement hostile, difficile. Pas parce qu'ils sont très forts, mais parce que le Seigneur agit. Parce qu'il croit en lui. La bonté et la fidélité de l'Éternel n'ont jamais été démenties, bien que le cœur de l'homme, lui, soit résolument tourné vers le mal. Il y a un espoir. Le Seigneur peut changer cela. Aujourd'hui, il y a un foisonnement d'idoles, et c'est peut-être l'occasion pour nous de nous tenir devant le Seigneur, en toute sincérité, afin qu'il nous révèle ce qui cloche dans notre marche avec lui. Timothy Keller affirme « Tout peut devenir une idole. » Tout peut devenir une idole. C'est pour cela que nous avons besoin de nous recentrer continuellement. Nous avons besoin de questionner nos habitudes. Nous avons besoin de questionner notre routine. Prenons peut-être le temps au courant de cette semaine d'examiner notre cœur et de réaliser quelle idole s'y cache. Abraham démontre que il peut donner ce qu'il a de plus cher au Seigneur. Quand nous lisons ce texte, du départ d'Abraham pour aller offrir Isaac, il n'y a nulle part où Abraham négocie avec Dieu. Dieu lui dit « va » et il se lève. Il y va. Est-ce que je suis capable de questionner ma carrière, ce que je fais avec ma famille et mes amis, cette activité sportive qui prend tout mon temps, la série à la télévision que je ne peux pas manquer pour rien au monde? Toutes ces choses ne sont-elles pas devenues des idoles, des petits dieux dans ma vie? N'ont-elles pas éloigné, écarté l'Éternel de ma relation avec lui? Ces idoles doivent être sacrifiées à l'autel, comme Abraham était prêt à sacrifier Isaac. Ces idoles doivent être sacrifiées à cet autel. Nous serons alors libres d'adorer l'Éternel de tout notre cœur. Celui qui agit ainsi ne sera jamais déçu par le Seigneur. Amen. Nous voulons prier. Dieu notre Père, nous te bénissons encore ce matin parce que tu nous parles et tu nous veux différents de ce que nous sommes. Seigneur, débarrasse-nous des idoles qui habitent nos vies et rends-nous aptes à te servir de tout notre cœur.